Je vous invite à prier. Voici, Éternel notre Dieu, nous nous recueillons devant toi, nous nous tournons vers toi de tout notre être. Que ton esprit vienne souffler en nous ta parole à travers ces vieux textes de la Bible, à travers le brouhaha du monde, que nous puissions l'entendre à travers les contradictions de notre être, que nous puissions la recevoir. Et nous vivrons. Amen. Nous voici donc à la dernière étape de ce parcours dans quelques rêves et visions des Écritures. Et puisque nous avons commencé par la Genèse, eh bien nous terminons par l'Apocalypse. Vous avez le texte qui est un petit peu long au dos des feuilles de culte, donc du chapitre 21, verset 9 au chapitre 22, verset 5 du livre de l'Apocalypse. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera et ils régneront à tout jamais. Quelle vision grandiose! Pleine de magnificence, chatoyante, éclatante, glorieuse, splendide, sublime, incomparable. Cette description a inspiré de merveilleuses œuvres d'art. Dans les plus anciennes connues, je remonte, je crois, au 5e siècle. Mosaïques, peintures, vitraux, tapisseries, enluminures, certaines reproduisant ou tâchant de reproduire avec minutie chaque détail du texte, d'autres très stylisées, comme sur un manuscrit du XIe siècle, un agneau tout simplement entouré de 12 cercles de couleurs différentes juxtaposées, et c'est magnifique. L'art contemporain n'est pas en reste, figuratif ou pas. Une profusion d'œuvres, une explosion de créativité. Et puis quoi ? Chaque précision de ce texte, de la description de cette Jérusalem relève du registre symbolique. Chacun recèle une signification aussi bien spirituelle qu'existentielle, dont hélas nous avons souvent oublié les symboles. Mais il ne s'agit pas, car il ne s'agit pas de rêver. Les chrétiens auxquels Jean de Patmos adresse ses visions seraient plutôt plongés dans une sorte de cauchemar. Pas du tout une catastrophe à l'image de celle délivrée en fiction ou en réalité par ceux qui envisagent l'Apocalypse comme la fin du monde provoquée par Dieu ou par les humains. Car si les écrits apocalyptiques juifs ou chrétiens sont le plus souvent déconcertants, ils ne visent pas à la condamnation ni à faire peur, mais ils visent à l'espérance. L'apocalyptique, c'est une pensée des temps de crise. Celle du judaïsme s'est développée sur 3 siècles, du 2e siècle avant notre ère au 1er siècle après notre ère. 3 siècles au cours desquels le peuple d'Israël a eu à supporter nombre de malheurs. Depuis la révolte des Maccabées, en réaction à l'installation dans le temple par le roi Antiochus IV Épiphane, dans le temple de Jérusalem, il a installé une statue de Zeus, certainement à son image en plus. Et puis ensuite, le siège et la prise de Jérusalem par les armées du Romain Pompée jusqu'à la guerre juive de 70 et la destruction du temple. Ces 3 siècles sont ceux de la défaite, des ravages, de la souffrance, du désespoir. Et à ce moment-là, dans ce moment-là, les écrits apocalyptiques affirment qu'il y a une espérance et un avenir. Un Messie doit venir qui apportera une divine victoire. Et cette proclamation, cette conviction encourage, réconforte, donne des forces. L'apôtre Paul s'appuie sur ce mouvement de pensée dans plusieurs de ses épîtres pour exprimer sa compréhension de la résurrection dans la perspective d'un retour imminent du Christ, perspective qu'il délaisse dans ses dernières épîtres. Matthieu, Marc et Luc ont tous les trois inséré un ou plusieurs passages apocalyptiques dans leur évangile respectif, chacun avec leur conception, leur nuance, leur visée propre. Marc s'en sert pour exhorter à une veille active et dépourvue de toute spéculation quant à la date, une veille dans le présent. Matthieu y inscrit bien sûr l'exigence de la justice sociale et du souci des plus démunis comme critère de fidélité, d'écoute de la parole et de jugement. Luc infléchit l'apocalyptique en engagement à la confiance en Dieu, en toutes circonstances, dans la perspective qui est la sienne d'une histoire du salut. Jean de Patmos, lui, écrit un peu après, à la fin du 1er siècle, sous le règne de l'empereur Domitien, un empereur qui persécute les chrétiens car ils ne se soumettent pas au culte de l'empereur Dieu que Domitien a instauré. Si la persécution à ce moment-là n'est pas encore systématique, l'idéologie du culte impérial qui se développe y conduira inévitablement. Mais surtout, mais aussi, Jean de Patmos voit très bien ce qui se joue dans ce culte. Il voit avec une extrême lucidité ce qui est tellement contraire, tellement dangereux pour la vie des vivants dans cette idéologie que sa vision représente comme une bête aux multiples visages. Alors le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, vient affirmer que dans ce monde soumis, écrasé par le pouvoir impérial qui s'exerce dans tous les domaines de la vie politique, religieuse, économique, sociale, dans ce monde-là, un autre monde est déjà là. Et que ceux qui se confient en Christ le croient, le sentent, y vivent. Le Christ, c'est cet agneau immolé et ressuscité, en apparence sans défense et sans pouvoir, mais dont la puissance créatrice de vie et transformatrice des êtres est véritablement déjà à l'œuvre. Dans ce temps hostile et destructeur dont la vision rend compte en termes de persécution, de combat des puissances totalitaires contre ceux qui restent fidèles à l'Évangile, la dernière vision, celle de la Jérusalem céleste, proclame une victoire qui, si elle n'est pas manifeste, n'en est pas moins déjà accomplie depuis le matin de Pâques. Le point d'appui de l'espérance, ce n'est pas un en avant dans le temps, c'est la résurrection du Christ qui a déjà inaugurer un temps nouveau, un temps autre dans le temps qui passe. Alors il ne s'agit pas d'endurer en attendant un futur rétablissement du paradis sur terre ou un futur établissement du royaume en gloire et encore moins d'attendre l'avènement de cette Jérusalem descendant du ciel. Il s'agit de vivre dans le temps qui est comme des hommes et des femmes déjà ressuscités à la suite du Christ, ce faible agneau, en qui, par qui, les puissances de mort ont déjà perdu leur emprise. Ce faible agneau par qui la fatalité s'efface devant le présent vivifié et les possibilités de l'avenir. Ce Christ qui est devenu vérité essentiel pour l'existence. C'est ce dont témoigne la vision, avec ses motifs aussi surprenants qu'extraordinaires. Une ville descend du ciel. Ce n'est pas le jardin d'Éden. C'est une ville, un lieu de vie des humains rassemblés. C'est-à-dire que l'accent est mis sur les relations entre les personnes, et ce n'est pas très étonnant. Autant la bonne nouvelle peut se traduire en termes de naissance, nouvelle naissance ou résurrection de la personne, autant cette personne ainsi née à nouveau ou ressuscitée est toujours reliée aux autres. Elle est suscitée pour être reliée, en étant reliée, pour être avec, dans une manière de vivre décentrée de soi et tournée vers autrui, avec des relations renouvelées en reconnaissance et en confiance. La ville, nos villes, sont les lieux de la vie commune, des rencontres, des conflits, des humeurs et des émotions, de la fête, du travail, de la colère, de la violence, de l'injustice et de la solidarité, de l'isolement et de la tension. En tant que lieu des relations, les villes sont aussi des lieux d'épreuve d'humanité. Et dans le livre de l'Apocalypse, Babylone, la ville impériale, est la ville qui a cédé à la tentation des relations de domination, de pouvoir, de violence. C'est la ville où les relations sont à la fois déshumanisées et déshumanisantes, où les êtres humains ne sont que des numéros au service de l'idéologie idolâtre qui la gouverne. Et il n'y a rien de cela dans la Jérusalem céleste, don de Dieu, c'est-à-dire don pour la vie et la vie commune dans des relations harmonieuses. C'est ainsi que la ville a la forme d'un cube. Un cube, c'est une forme parfaite. Cette forme signale donc la perfection de cette ville. Mais c'est aussi un cube aux dimensions impressionnantes. 12 000 stades de côté dans les trois dimensions, c'est-à-dire 2200 kilomètres. Paris-Reykjavik. Un peu plus même que Paris-Kiev. Autant dire que c'est la ville de l'humanité. Pour toute l'humanité, tous les peuples, tous les clans, toutes les familles de la terre, chaque personne. Quant au nombre 12, omniprésent en lui-même ou en multiples, il évoque bien sûr les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, qui sont les témoins et les porteurs du Christ, mais aussi à travers ces apôtres, toutes celles et ceux qui ont été après eux témoins et porteurs du Christ. La ville est entourée d'une muraille, et cela signifie qu'on s'y tient en paix. D'ailleurs, Jérusalem, ce nom se traduit par « source de la paix ». Car ce n'est pas une paix assurée par les armes ou par la clôture des frontières. En effet, les 12 portes de la ville sont toujours ouvertes. C'est donc un lieu d'accueil. Et les anges qui se tiennent à chacune des portes sont des anges de bienvenue, des anges d'hospitalité et aussi des anges d'évangélisation, afin que les relations entre les personnes soient converties, par exemple, de la violence à la fraternité, Philadelphie, ou à l'amour, Agapé. C'est qu'il ne rentre rien de mauvais dans la ville. Rien de mensonger qui susciterait confusion et violence par manipulation des personnes et en faussant la parole. Pas de faiseur d'abomination comme Antiochus IV Épiphane ou comme Domitien pour imposer l'orgueil, l'hubris, la démesure. Et puis à l'écoute de la bonne nouvelle dans tous les livres du Nouveau Testament, ce n'est pas à un tri entre les personnes bonnes et mauvaises qui est procédé, mais c'est plutôt entre ce qui en chacun est tourné vers la mort ou est tourné vers la vie. Les matériaux les plus recherchés, les fondations ornées de pierres précieuses, les portes en perles, la muraille de jaspe, la ville en or, tout cela reflète la grâce, la paix, la joie et l'harmonie. Alors, ne considérons pas avec méfiance une ville aussi minérale, sans espace vert, avec un seul arbre. Mais quel arbre ? C'est l'arbre de vie, qui donne des fruits toute l'année, des fruits vivifiants, et dont les feuilles servent à la guérison des nations aux histoires tumultueuses et tragiques. Cet arbre unique planté sur les deux rives du fleuve d'eau de la vie qui coule abondamment. La Jérusalem céleste, c'est la ville de la vie. C'est la vie pour la vie vivante. Alors il n'y a pas de temple, parce qu'il n'y en a plus besoin. Ni de sacrifice, ni de prêtre, ni de lieu réservé comme le Saint des Saints. La présence de Dieu n'est plus confinée à un endroit ou à un temps, elle est permanente. Dieu ne vient pas dans la ville des humains, ce sont les humains qui vivent dans la ville de Dieu, en paix. Et c'est une manière de parler de la présence de Dieu en chacun. Habiter la ville de Dieu, c'est être habité par Dieu, en Christ, quand on le laisse prendre place en soi, au cœur du cœur, au creux de l'âme. Lorsque chacun est ensemble, nous devenons temple de Dieu, écrit aussi l'apôtre Paul. Cette ville n'est pas construite par les humains. Nous ne bâtirons pas la Jérusalem céleste. Nous nous bâtissons et nous habitons des villes humaines. Et ce sont des lieux complexes, des lieux où il faut faire des choix. Et l'Apocalypse pose d'une manière très, très claire, très tranchée, le choix essentiel, fondamental pour tout autre choix d'existence. Le choix entre les puissances de mort, de désespoir, de réduction et d'asservissement de l'humain, et le choix de la confiance en l'agneau immolé, le Christ ressuscité, la puissance créatrice de vie. Augustin d'Hippone écrivait à sa manière : l'amour du siècle fait Babylone, l'amour de Dieu fait Jérusalem. Si la ville est le symbole des relations humaines, ces relations sont orientées selon l'œuvre de Dieu pour nous et en nous. Œuvre de résurrection, de transformation de l'être, une œuvre dont le Christ est en nous la puissance même. Et l'ouverture de notre être à cette puissance qui ne s'impose pas transforme notre manière d'être au monde parce qu'elle transforme déjà notre regard sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas des numéros voués à nous aligner dans la file des servants, des idoles, argent, pouvoir et violence. Nous ne sommes pas obligés de gagner notre place dans le monde. Nous sommes l'espérance de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes les appelés par Dieu. Et toutes ces manières de dire expriment notre valeur d'humain, de personnes infiniment précieuses, une valeur d'or pur, de jaspe poli et scintillant, une valeur de saphir et d'émeraude, une infinie valeur que rien ne peut altérer. Et c'est pourquoi nous pouvons vivre autrement que selon l'ère du temps qui pousse à la compétition, à l'individualisme, au rapport de force, à l'accumulation de consommation, d'argent, tout ce qui provoque la désolation de l'humain, si rien ni personne ne lui manifeste confiance et espérance. Nous pouvons compatir et dialoguer, partager et encourager parce que nous croyons que la vie vivante, celle de l'arbre, celle du fleuve, celle du Christ, coule en nous seulement par grâce. Plutôt que de vouloir être des dieux, comme l'empereur Domitien, nous pouvons choisir de vivre en misant sur la confiance, sur l'hospitalité, sur l'Évangile. Lorsque la rumeur du monde mêle les cris de guerre et les pleurs de faim, les lamentations des persécutés, les plaintes des humiliés, les grondements des exclus, les clameurs des oubliés, il importe d'être très attentif à cette rumeur. Nous pouvons aussi écouter la voix de Jésus, égrenant les béatitudes, et celle du psalmiste qui chante que l'Éternel est son berger, qu'il ne manquera de rien. Et la voix de Paul qui proclame que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et la voix de Moïse qui exhorte à choisir la bénédiction et la vie. Et la voix étrange de Jean de Patmos qui déroule sa vision pour révéler Jésus-Christ, agneau immolé et vainqueur de l'empire triomphant et perdant. Ces voix ne nous conduisent pas ailleurs que dans nos villes pour nous y engager, dans l'espace et le temps libérés des assignations, dans une espérance venue du ciel qui est don de Dieu pour un nouveau présent qui change le futur en avenir, l'espérance qui est don de Dieu pour l'avenir qui change la résignation en présent. Là et quand les villes et le monde deviennent cruels, angoissants, désespérants, absurdes, inhumains, ce déjà-là de la résurrection, de Pâques, du Christ vivant, de la confiance et de l'espérance de Dieu pour nous, qui fait se tenir debout, c'est ce qui nous fait tenir debout, ce qui nous fait trouver encore et toujours le sens de la vie et le sens de l'humain. Amen.